Eh bien, bonjour à tous. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vais m'accorder 2 minutes de présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Luc Pinède, j'ai 72 ans, j'ai 3 enfants grands et je participe à votre église de façon épisodique depuis plus de 20 ans. J'ai participé aux travaux, mais c'est rien à côté de la reconnaissance que j'ai pour l'église de mes petits-enfants, Thibaut et Nathan Gobb. Et donc voilà, je viens à peu près à un rythme d'une fois par mois, et je vous porte dans ma prière, et je vous suis sur les réseaux, et voilà, je suis un de ces paroissiens New Wave qu'on peut voir maintenant. J'ai été ordonné diacre en 2012 pour les églises réformées évangéliques, une association d'églises, d'une 40aine d'églises protestantes qui sont essentiellement dans le sud-est, dans les Cévennes. Alors diacre, ça n'est pas ni catholique ni protestant, c'est biblique. Et donc pour ceux qui cherchent, je ne veux pas faire trop long, la définition biblique est en acte 6. Dans acte 6, l'église grandit, on a besoin de s'organiser et ceux qui font l'enseignement évitent de régler les problèmes de la nourriture servie aux veuves des Grecs et des Hébreux qui subissent une forme d'injustice. Diacre. Comment devient-on diacre? Les autres, je ne sais pas, mais moi, Dieu a voulu que je fasse un petit stage de 35 ans dans la gendarmerie nationale. Et quand j'ai été libéré de mes obligations, j'ai pu m'engager dans un ministère de diaconat. Voilà, depuis 2012. Je l'ai un peu mis en sommeil après le Covid et je continue à prêcher. Je suis donc prédicateur laïque. Mes prédications ne sont pas d'un niveau théologique académique. C'est-à-dire que je ne choisis pas, je réponds à des demandes quand on me les fait. De traiter de tel ou tel sujet parce que les gens peuvent me trouver compétent. Et quand j'ai le choix, l'initiative, ce sont des choses de vie courante, pratico-pratique, on dit aussi. Il est possible de croire au ciel en étant terre à terre, pas les pieds sous terre, mais les pieds sur terre, et pas la tête dans les nuages, mais dans le ciel, voilà. Et donc, je traite de sujets courants qui sont très souvent liés à un mot. Voilà, je fais des jeux de mots. C'est un de mes... Mes enfants n'aiment pas trop. Une de mes manies, on va dire. Mais je suis adepte de ce qu'on appelle le jeu de mots. Pourquoi ? Parce que un mot fait naître en moi une idée. Parce que la Bible, c'est la parole. Que la parole, c'est un ensemble de mots. Et que le jeu de mots me permet souvent de mettre en évidence une ambiguïté. Donc je traite du sens des mots, c'est une science qui s'appelle la sémantique, mais mon intérêt premier, c'est de faire rire à l'occasion, mais surtout d'attirer l'attention sur l'ambiguïté et les erreurs qui sont faites quand les gens le prennent pour un sens, alors qu'en fait, il y en a un autre. Voilà, j'ai terminé et je vais attaquer directement. Le sujet de mon message ce matin, c'est le partage. Le mot partage est l'idée qu'elle induit, et ce qu'en dit la Bible. Je vais commencer par une anecdote. À qui c'est pas arrivé, ou moi ça m'est arrivé, mais de se promener et puis de croiser quelqu'un qu'on connaît bien, famille, amis, proches. Et on vient vers lui et il est très agité, on voit bien quelque chose qui se passe. On s'approche, on pose la question, qu'est-ce qui t'arrive? Il se retourne brusquement, il vous regarde droit dans les yeux et il vous dit, j'ai gagné au loto, on va partager ma joie. Vous êtes passé par 3 stades émotionnels. Le premier, la curiosité. Le deuxième, le soulagement. Le troisième, l'espérance. Et le quatrième, la désillusion. ce que je vous ai dit peut être mis sous la forme d'une devinette. Si vous jouez comme nous, de temps en temps, on le faisait avec le jeu du dictionnaire, on se pose des devinettes. La devinette, c'est qu'est-ce qui augmente quand on le partage ? Qu'est-ce qui augmente quand on le partage ? L'amour. Vous partagez l'amour, un idéal. Ça augmente quand on le partage. Voilà les deux sens du mot partage que je mets en opposition. Il y a le partage du gâteau qui sert à couper et à s'approprier une tranche, et puis le partage d'un idéal, d'un sentiment, d'une espérance qui fait que plus on est nombreux, plus il croit et se multiplie. Donc c'est étonnant ce mot partage. Soit vous le faites dans un esprit d'appropriation, de réduction, soit vous le faites dans un esprit d'échange, de cohésion et d'agrandissement d'une idée. Partage. Je ne fais pas ça pour vous donner un cours, je fais ça parce que c'est un problème pour moi, et que je le règle avec la Bible. Et avec la Bible, j'ai trouvé un chapitre où vous pourrez voir que le mot partage est envisagé dans les deux sens d'une manière assez originale que j'ai trouvée. C'est le fameux jugement de Salomon que l'on trouve dans la Bible, dans le livre des Rois, le premier livre des Rois, au chapitre 3, à partir du verset 15. 1 Roi, chapitre 3, verset 16. Le jugement de Salomon, vous pouvez y aller, c'est quelque chose qui est quasiment vulgaire. On l'étudie encore aujourd'hui à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Ça traverse les âges, et donc le jugement de Salomon reste quelque chose de tout à fait courant. Après, ce qu'on en tire. Donc, ainsi commence la lecture. C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit : Pardon, mon seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi accouchait. Nous habitons ensemble et il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais. Et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin venu et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit « C'est faux, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » Et ainsi, elles discutèrent devant le roi. Le roi constata, l'une dit « C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » L'autre dit « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » Puis il ordonna « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi et le roi dit alors « Partagez en deux l'enfant, coupez l'enfant en deux qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune d'elles. » Alors, la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. » Mais l'autre répliqua, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Prenant la parole, le roi dit alors, « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne le faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit que le jugement du roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Voilà le jugement de Salomon. Deux personnes partagent énormément de choses, premier sens du mot partage. Elles sont femmes, elles sont prostituées toutes les deux, et elles partagent un même logement. Elles partagent même une même condition de jeune mère. Vraiment, il semblerait qu'il y ait un partage étendu, un incident, un accident arrive. Les conditions sont réunies pour ne pas laisser de place à la suspicion. L'enfant meurt. Il n'y a pas de nom pour la perte d'un enfant. Il y a un nom quand vous perdez vos parents, vous êtes orphelin. Un nom quand vous perdez votre conjoint, vous êtes veuf ou veuve. Il n'y a pas de nom qui désigne la perte d'un enfant. Sans que je puisse faire appel à des statistiques précises, on estime que dans ces temps anciens, de faible médecine, à peu près un enfant sur trois arrivait à l'âge de 3 ans. Un enfant sur trois. Il y a donc dispute, et elle est portée au jugement du roi. La Bible nous dit aussi que le roi avait accordé le don de sagesse à Salomon. Il avait demandé des choses qui n'étaient pas à son profit, mais qui étaient au profit de sa fonction. Ça avait plu à Dieu, qui lui a dit « Je te donnerai non seulement ce que tu m'as demandé, et plus encore. » Ainsi donc, le roi prend cette initiative, qui ne serait pas acceptée de nos jours, de dire et de mentir. On suppose qu'il n'avait pas l'intention de couper l'enfant en deux, de le partager, mais il met ce choix-là devant les deux femmes et il attend un cri de vérité. La vérité va se manifester par le fait que la vraie mère va renoncer à son droit légitime pour que l'enfant vive au bénéfice de l'enfant. Alors que chacune des femmes semblait dire qu'elle voulait que l'enfant lui soit rendu à son propre bénéfice. Ainsi donc, leur partage était un partage d'occasion. Ce n'était pas un partage d'idéal. Ce n'était pas une communauté. C'est là que s'est mis en évidence cette notion de partage, quand je vais le dire, qui fait que, depuis que j'y ai réfléchi, que j'ai creusé la chose, je fais bien attention à ce qui est convenu quand quelqu'un me dit « on partage », de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Je vous ai dit, c'est souvent une manie que j'ai. Des gens disent, par exemple, « c'est mon église ». Les autres disent, ils sont d'accord en disant « c'est mon église ». Pas du tout. Il y en a certains qui vont dire « c'est mon église ». Donc je la sers, et l'autre qui dit « c'est mon église, donc elle doit être comme je le veux, sinon je m'en vais ». Donc, vous vous rendez bien compte de l'ambiguïté d'une petite phrase ou des malentendus qui peuvent être répandus, un malentendu, une ambiguïté, et chacun part avec une idée qui est fausse. Voilà aussi pourquoi le partage, quel qu'il soit, est quand même quelque chose d'assez important et qui doit mériter notre attention. Et je ne suis pas évidemment là pour donner une leçon de morale ou de sagesse ou de civisme ou de droit. Ce serait trop simple. La Bible n'est pas un livre de sagesse, n'est pas un livre de poésie, mais elle la contient. Et on doit évidemment partir de ce qui nous est enseigné, de ce qu'on a reçu, pour savoir quel est le message de Dieu qui nous est adressé. Et on est en période de Pâques. En ce qui me concerne, la notion de partage, la plus compliquée que je puisse chercher ou trouver au fin fond de moi, c'est l'idée que Dieu a voulu partager notre humanité, partager notre condition. C'est sans doute ça, au-delà des intérêts pratiques, pratico-pratiques dont je vous ai parlé. En cette période de Pâques, quand vous allez communiquer avec des non-croyants, moi je suis athée non pratiquant, comme dirait Alain Auderset dans son fameux livre « Idées reçues ». Je suis athée non pratiquant. Et donc je m'arrive de discuter, de chercher à convaincre, d'amener. Je m'aperçois que c'est vraiment un fondement. Quand on parle de Dieu à quelqu'un, c'est un symbole, c'est un concept, c'est ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui est au-dessus de tout, d'une autre nature, d'une autre puissance. Il est omniprésent, omniscient, omnipuissant, tout ce qu'on va... Il est vraiment d'une autre nature. Et au moment de Pâques, il faut bien expliquer que Dieu s'est fait homme, il est venu partager notre condition, notre statut d'humain, né dans le péché, héritier d'Adam et Ève, par nature pécheur. L'idée que Dieu, qui est tout, qui est la puissance, qui est le créateur, qu'il se mette au niveau de sa créature, je reconnais que c'est incroyable. Je le reconnais. C'est non seulement pas facile à expliquer à des gens, par exemple, de culture musulmane ou des gens pas encore chrétiens, j'aime pas dire des non-croyants, j'aime mieux dire des pas encore croyants. Ça laisse une place à l'espérance, à l'ouverture. Mais donc, je suis prêt à discuter et je m'aperçois que quand on va aborder ce sujet, notamment à Pâques, dire que Dieu s'est fait homme pendant 30 ans, même si c'est il y a 2000 ans, c'est quelque chose d'inimaginable. Et c'est donc accessible par la foi. Pensez que celui qui est tout-puissant, qui est Dieu, vient se mettre dans la peau de celui qui l'a quitté, qui s'est révolté. Moi, je suis dans l'idée d'être héritier d'Adam et Ève, et que même enfant, j'étais pécheur. Bon, je ne devais pas, mais je vais le dire quand même. J'ai encore assisté à des conférences où on parlait de ce sujet-là. Même enfant, il y en a un ici, pur et sans tache. Il y avait discussion de savoir qu'il était héritier d'Adam et Ève et qu'il était pécheur par nature. Et le pasteur qui prêchait, je me rappelle son nom, il s'appelle Hugh Wessel, un Américain. Il faisait tout ce qu'il pouvait, mais dans l'assemblée, il y avait des dames, et majoritairement, et la tension est montée. Il dit non, un enfant qui vient de naître, il n'est pas pécheur. Et tourne, vire, théologie, etc. Et à un moment, il ne tient plus. Il lui dit, écoutez, je suis grand-père. J'ai un bébé chez moi, je le garde. Il a 6 mois, il ne parle pas. Il est pur, sans tache. Il tombe, il pleure, il se fait mal. Je m'occupe de lui, je le soigne. Tout va bien, il est guéri. Et tout passe, il recommence à jouer. Sa mère rentre. Dès qu'il voit sa mère, il se remet à hurler et à faire une crise. Eh oui, elle n'était pas là quand il est tombé. Il va le lui faire payer. Il dit, vous appelez ça sans tâche, vous? Il s'est laissé aller, le pasteur, il a regretté après. Il n'a pas provoqué les gens à faire ça. Pour la petite histoire, c'était dans un Barnum l'été, une convention méthodiste dans les Cévennes. J'ai vu la dame se lever dans une colère noire et elle est partie en bousculant les chaises. Alors, je n'ai pas su quoi faire, j'ai regardé le pasteur, j'ai regardé la dame partir et puis je me suis dit, je vais suivre la dame sans que je sache pourquoi. Et je la suis à 10 mètres derrière. Elle rentre dans la salle de spectacle, comme vous diriez ici, et elle envoie valser toutes les chaises de colère. Et j'étais là à pas savoir quoi faire. quand d'un seul coup, elle se retourne et elle me voit. Et bien, elle me fonce dessus. Hein. Je l'ai regardée venir vers moi à toute vitesse, énervée, rouge de colère, suant. J'ai dit, mon pauvre, trouve quelque chose d'intelligent à dire, parce que dans 2 minutes, tu vas en prendre une. J'y ai cru sincèrement. Et au moment où elle s'est approchée de moi, je lui ai dit, vous savez, vous êtes fâché, mais reconnaissez qu'il n'a pas voulu vous faire de mal. Il vous expliquait une théorie qui est difficile. Ça l'a arrêtée, elle m'a regardé, et elle m'a contourné, elle est partie. Elle ne pouvait pas partager l'idée que... Et moi, je vais lui dire que je suis au bénéfice de la grâce et de mon salut, parce que Dieu a décidé de se faire homme, né d'une femme, dans un village paumé, en plein milieu de n'importe où, et de vivre pendant 30 ans comme apprenti charpentier, tout comme nous, à l'exception du péché. Voilà, il faut pouvoir le dire. Ici, il n'y a visiblement personne que ça choque. Dans certains autres endroits, vous risquez de la réponse, de l'agressivité, et il va falloir trouver quelque chose pour expliquer ce qu'est la foi, et que je ne cherche pas à le lui prouver, parce que Dieu a décidé qu'il n'existait pas de preuve de son existence. Dieu veut qu'on le cherche. Il dit, vous me chercherez de tout votre cœur, et je vous répondrai. Mais il ne veut pas me prouver par A plus B que ce que je dis est vrai. Donc je ne vais pas le faire, moi. Mais malgré tout, je vais continuer à faire mon travail d'évangélisation et de soulager et de toujours laisser la porte ouverte. Mais j'avoue que ce sujet-là, Pâques, dire que quelqu'un qui est la toute-puissance, à l'abri de tout, créateur de tout, choisisse de se faire homme et souffrir pendant 30 ans pour finir sur une croix, rejeté par tous, et cela est la preuve de la réconciliation par le sang entre Dieu et nous. Pour ceux qui sont croyants, ce n'est pas un souci, mais pour tous ceux qui ne le sont pas encore, c'est quelque chose de tellement difficile. Tellement difficile. Et en général, on ne va pas rester trop là-dessus. Parce que non seulement il y a la mort, mais il y a la résurrection, et il y a le fait que Jésus nous attend, et que le parcours n'est pas terminé. Et qu'il me reste à partager avec vous le temps que Dieu me laisse vivre, mais que je suis... Une autre expression que j'utilise, peut-être vous trouverez étrange, mais je suis à réalité augmentée. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression qui commence à fleurir, à être à réalité augmentée? Ça vient de tout ce qui est médical et qui fait qu'on ne veut pas considérer qu'un handicapé est un malade. Il y a toute une logique, tout un processus. Et donc quand quelqu'un, par exemple, est né aveugle, mais que c'est à cause de son nerf optique et qu'on lui a mis un ordinateur et qu'il commence à voir, on lui applique ce terme-là de réalité augmentée. On dit, c'est écrit dans les dossiers, et c'est le terme qui va bien, il est devenu à réalité augmentée. Et bien, d'une certaine manière, je considère qu'avec la foi, nous sommes tous difficilement reconnaissables les uns des autres, mais nous sommes tous à réalité augmentée. Si le fait d'être non-croyant est un handicap, il y a la grâce de Dieu qui vient compenser cet handicap et qui vient faire de nous des ouvriers de paix, des témoins, et que, voilà, vous avez pris un grade aujourd'hui, vous le mettrez sur votre carte d'identité, votre carte de visite. Je suis un homme à réalité augmentée. Si les gens viennent vous demander pourquoi, vous demanderez, vous réfléchirez, vous trouverez toujours quelque chose. Voilà, c'est une idée qui m'a touché. Et donc, que j'ai partagé avec vous ce matin, le mot « partage » est un mot difficile et un mot qui nécessite une introspection et un travail. Ce que je vous ai dit est un triptyque. J'ai trois volets. C'était le premier, le partage. Le second s'appelle le don, qu'on matérialise, qu'on prenne ce qu'est le don. Et le troisième volet, si j'arrivais à revenir, ça, c'est le service au titre de l'Église. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.